Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Pour son intention de prière de ce mois d'avril 2024, le pape François invite à prier pour la reconnaissance de la dignité des femmes et pour la cessation des discriminations envers elles. Benoît XVI était comme un père pour moi. Il m'a toujours défendu et m'a laissé libre. Des propos du pape François sur son prédécesseur dans un livre souvenir sous forme d'entretien avec un journaliste espagnol. Le livre paraît ce 3 avril. Vatican News lance un nouveau programme linguistique en langue Canada de l'Inde. Vous aurez les détails de tout ceci dans l'actualité de l'Église, qui nous conduira aussi au Congo-Brazzaville et en Côte d'Ivoire pour parler des célébrations de la Pâque. Prestation des serments du nouveau président sénégalais. La société civile malienne fait pression sur les militaires au pouvoir en vue des élections. Nous en parlerons dans l'actualité sociale et politique en Afrique, qui nous conduira aussi en Égypte. Nous conclurons cette édition par notre rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Prions pour que la dignité et la richesse des femmes soient reconnues dans toutes les cultures et que cessent les discriminations dont elles sont victimes dans diverses parties du monde. C'est l'intention des prières du pape François pour ce mois d'avril 2024. La vidéo contenant cette intention a été rendue publique mardi. Christian Losambé.
Respectons les femmes, respectons-les dans leur dignité, dans leurs droits fondamentaux. Si nous ne le faisons pas, notre société n'avancera pas, assure le pape dans son message qui nous adresse à travers le réseau mondial de prière du pape. Dans son intention de prière mensuelle, François appelle les gouvernements afin qu'ils s'engagent à éliminer les lois discriminatoires partout et à veiller à ce que les droits humains des femmes soient garantis. Le Saint-Père insiste sur les mesures à prendre dans la société actuelle et demande aux chrétiens de se joindre à lui pour prier à cette intention. La vidéo accompagnant l'intention de prière de François s'ouvre sur des images fortes, conformément à ce que le pape dénonce avec force, notamment les viols, les abus, les mutilations génitales, les discriminations. Dans son message, François souligne la grande distance qui existe entre les déclarations de principe et la réalité. En parole, nous sommes tous d'accord pour dire que les hommes et les femmes ont la même dignité en tant que personnes. Mais en acte, il n'en est pas ainsi, regrette-t-il, en citant quelques lois discriminatoires et des obstacles à la poursuite de leurs études. Même dans les pays qui se disent avancés, elles sont encore nombreuses à ne pas bénéficier des mêmes opportunités que les hommes. Sur le marché du travail, par exemple, moins d'une femme sur deux dans le monde travaille et les femmes gagnent 23% de moins que les hommes. Et cela doit changer, insiste le pape.
Merci Christian. Benoît XVI était comme un père pour moi. Il m'a toujours défendu et m'a laissé libre. Ses propos, c'est le pape François qui les tient dans un livre à paraître le 3 avril intitulé « El successor, les successeurs en français ». Le Saint-Père y évoque longuement ses relations avec son prédécesseur, Jean-Charles Puzzolo.
C'est un livre souvenir sous forme d'entretien avec le journaliste Javier Martinez Brocal dans lequel François détaille ses nombreuses rencontres avec le pape émérite. Il relate ses conversations et décrit Joseph Ratzinger comme un homme d'une grande douceur, très délicat mais un homme fort qui cependant préférait ne pas s'imposer. Il a donc beaucoup souffert, explique François, lorsqu'il voyait qu'il était parfois instrumentalisé. François souligne avec respect le fait que Benoît XVI ne se soit jamais imposé, qu'il n'ait même jamais fait obstacle et même lorsque les avis divergeait. S'il y a un épisode que François retient particulièrement, c'est celui relatif à ses propos sur la possibilité d'offrir une forme de protection, sans remettre en cause le sacrement du mariage, aux autres formes de couple. Le pape se souvient que des cardinaux étaient alors allés voir Benoît XVI pour accuser François d'hérésie, et ce jour-là, raconte-t-il, Benoît XVI a écouté les cardinaux un à un et m'a bien défendu, leur expliquant, en prenant de la hauteur, que je ne disais point d'hérésie. Enfin, François revient sur sa toute dernière rencontre avec son prédécesseur, mourant. Il ne pouvait plus parler. Je lui ai dit quelques mots affectueux et je l'ai béni. C'est ainsi que nous nous sommes quittés.
Jean-Charles Puzzolo. Dans la prévention et la répression des crimes contre l'humanité, il convient de toujours mettre la dignité de la personne humaine au centre. Déclaration de Mgr Gabriele Caccia, observateur permanent du Saint-Siège aux Nations Unies. Mgr Caccia est intervenu lundi à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a porté sur l'élaboration d'une convention internationale sur les crimes contre l'humanité. Dans cette élaboration, il est important de tenir les doubles objectifs de punir, mais aussi de prévenir, a-t-il souligné. Dans l'élaboration du projet d'article, le représentant du Vatican demande d'ajouter une référence au concept des dignités humaines, car lorsque des crimes contre l'humanité sont commis, la dignité humaine est attaquée, mais elle n'est pas perdue. Cette convention ne devra pas non plus s'écarter des normes coutumières existantes et qui condamnent déjà ces crimes, a-t-il ajouté. Un nouveau programme linguistique à Vatican News, le Canada est la 53e langue qui s'ajoute aux 52 autres déjà existantes de Radio Vatican. À partir de mardi sur les portails Vatican News, la langue parlée par des millions de personnes en Inde entre dans l'histoire de l'Église pour apporter la parole du pape dans la langue maternelle des millions d'Indiens, a déclaré Andrea Tornielli, directeur éditorial des médias du Vatican. C'est le fruit d'une collaboration du dicastère pour la communication et l'archidiocèse de Bangalore dans l'État indien de Karnataka, a souligné Paolo Ruffini, préfet du dicastère pour la communication. Je me réjouis du lancement de ces pages en Canada, d'un grand intérêt et d'une grande importance pour l'église locale, a déclaré l'archevêque de Bangalore, Monseigneur Peter Machado. Il remercie le pape François pour son sens des synodalités et de faire porter l'église aux périphéries, tout en espérant d'une possibilité ultérieure de retransmission en audio et en vidéo, a conclu l'archevêque. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit au Congo-Brazzaville. À Pointe-Noire, la communauté paroissiale de Sainte-Face de Jésus était en liesse pour la solennité de Pâques. Ils ont prié pour toutes les victimes des guerres et imploré la paix dans le monde. 20 enfants ont reçu le sacrement de baptême des mains du curé, l'abbé Alphonse Tati Bumba. Les comptes rendus de Séverin Moussavou.
Dans son homélie, l'abbé Alphonse Tati Bumba, curé, a exhorté les chrétiens à faire mémoire du baptême. Car par le baptême, dit-il, chacun reçoit la vie du Christ ressuscité. Il est aussi revenu sur l'épisode de l'évangile de la veillée pascale concernant ce jeune homme vêtu de blanc assis à droite dans le tombeau de Jésus en s'adressant aux femmes en ces termes. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Ce passage lui a servi comme fondement biblique pour inviter les fidèles à ne pas chercher le Christ dans le merveilleux, le spectaculaire ou dans des dévotions mal éclairées, car le Christ est par excellent présent dans sa parole et dans les sacrements. Pour conclure, l'abbé Tati a lancé un message de paix en faveur des pays en guerre à travers le monde.
On regarde ce qui se passe un peu partout. Je ne voudrais pas citer, on sait un peu partout, les foyers de tension. Donc il y a cette paix que Jésus nous apporte. D'ailleurs, c'est la salutation, hein, la paix du Christ. Quand Jésus, on va voir les récits de l'an du temps pascal, on verra Jésus qui va apparaître partout et qui dira « la paix soit avec vous ». Donc c'est cette paix que nous espérons dans nos foyers, dans notre pays, un peu partout dans le monde.
Séverin Moussavou, Pointe-Noire pour Radio Vatican.
En Côte d'Ivoire, la solennité de Pâques a été vécue dans une grande ferveur. Les fidèles ont été appelés à ne pas se déconnecter du Christ, mais à marcher dans les pas du ressuscité. La joie pascale a retenti dans tous les diocèses, notamment à Daloa, Bundoukou et Korogo. Marcel Ariston Blé nous en donne un récit.
Parés dans leurs plus beaux vêtements, les fidèles ivoiriens, à l'instar des autres dans le monde, ont célébré dans une grande ferveur la résurrection du Christ. Dimanche 31 mars 2024, solennité de Pâques, présidant la messe à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Dimbekaa dans le diocèse de Katula, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, ordinaire du lieu dans son homélie, a invité ses fidèles à marcher désormais dans les pas du ressuscité de Pâques. Et cette joie de l'annonce de la résurrection du Seigneur a été plus étincelante la veille lors de la vigile pascale. Ils étaient plusieurs centaines de milliers de fidèles à avoir été témoins du plus important événement de l'Église. À la paroisse Saint-Marc, dans le diocèse de Daloa, Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, lors de son homélie, a exhorté les fidèles, quant à lui, à sortir de leur tombeau pour une vie plus abondante en Jésus ressuscité. Cet invite, Monseigneur Bruno Esso Yedo, évêque de Bundoukou, président de la messe de la vigile pascale à la cathédrale Saint-Odile, l'a réitéré à ses fidèles, mais surtout, il les a invités à croire et garder la foi en Dieu.
En lui, on trouve équilibre et stabilité.
Fort de cela, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo, dans son homélie, lors de cette vigile pascale à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, a invité les fidèles ivoiriens à ouvrir leur pays à la nouveauté, souhaitant que l'élan de la réconciliation soit nettoyé de toutes les corruptions du tombeau, qu'il s'enracine dans des cœurs ouverts à l'accueil de l'autre avant d'être un programme de gouvernement. Marcel Ariston Blé,
Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Actualité sociale et politique en Afrique. Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment mardi. Il devient le cinquième président du pays ouest-africain depuis l'indépendance en 1960. Jean-Benoît Harel.
C'est dans un centre de Damiadio, ville nouvelle près de Dakar, que Bassirou Diomaye Faye a prêté serment et a prononcé son premier discours en tant que président du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye a promis un changement systémique à la tête de son pays et plus de souveraineté. Monsieur Faye s'est dit conscient que sa victoire à la présidentielle du 24 mars exprime un profond désir de changement systémique. Il a aussi dit entendre clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Devant des centaines d'officiels sénégalais et plusieurs chefs d'État et dirigeants africains, le désormais président du Sénégal a juré devant le Conseil constitutionnel de défendre l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Bassirou Diomaye Faye a préconisé plus de solidarité entre pays africains face aux défis sécuritaires. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires nous oblige à plus de solidarité, a-t-il déclaré. Je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine, a-t-il ajouté.
Jean-Benoît Harel. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a prêté serment mardi devant le Parlement pour son troisième mandat à la tête du plus peuplé des pays arabes. Au pouvoir depuis une décennie déjà, al-Sissi devrait rester à son poste jusqu'en 2030 après avoir remporté en décembre l'élection présidentielle avec près de 90% des voix face à trois autres candidats relativement peu connus du grand public. Son nouveau mandat, qui débute dès mercredi et pour une durée de 6 ans, est censé être le dernier conformément à la Constitution. Cette investiture dans la nouvelle capitale administrative qu'il a fait construire à l'est du Caire marque aussi l'inauguration de cette nouvelle capitale selon des médias locaux. En Afrique du Sud, la présidente du Parlement risque une arrestation pour corruption. La justice sud-africaine a rejeté mardi un recours en urgence de la présidente du Parlement visée par des accusations de corruption, ouvrant ainsi la voie à une possible arrestation de cette figure du parti au pouvoir à 2 mois d'élections législatives cruciales. Présidente du Parlement depuis 2021 et membre de l'ANC, parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, Nosiviwe Mapisa Nkakula est accusée d'avoir perçu d'importantes sommes en espèces d'un contractant militaire lorsqu'elle était ministre de la Défense de 2014 à 2021. Plus de 80 partis politiques et organisations de la société civile au Mali réclament l'organisation dans les meilleurs délais d'une élection présidentielle et la fin de la transition dans ce pays sahélien dirigé par des militaires au pouvoir depuis 2020. Ils soulignent tous dans 2 communiqués distincts que la durée de la transition a pris fin le 26 mars dernier. Les détails avec Abdul Razak Idrissa depuis Niamey.
Le réseau des défenseurs des droits humains au Mali et un groupe d'associations et de partis politiques considèrent que la période de transition a pris fin le 26 mars dernier et que le pays se trouve de fait dans un vide juridique et institutionnel. La junte dirigée par le colonel Assimi Goïta avait décrété en juin 2022 que les militaires céderaient le pouvoir aux civils à l'issue d'une période s'achevant le 26 mars 2024 après une présidentielle prévue en février de la même année. Les militaires ont, entre-temps, annoncé le report de cette élection présidentielle à une date toujours inconnue. Avant les demandes de ces structures, un syndicat de magistrats et une association de procureurs maliens ont saisi la Cour constitutionnelle du pays afin de constater la vacance de la présidence de la transition. En rappel, la tenue d'élections marquant la fin de la transition militaire au Mali est un engagement des militaires au pouvoir vis-à-vis de la CEDEAO, de laquelle la junte a décidé de retirer le pays au mois de janvier dernier. Abdel Razak Idrissa à Niamey pour Radio Vatican.
Prise de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde, c'est notre rubrique du jour. Christian Lossambé.
Notre rubrique nous conduit essentiellement au Cambodge, en Corée du Sud, en passant par la France et l'Ukraine. Au cours de la veillée pascale du 30 mars, 185 catéchumènes du vicariat apostolique de Phnom Penh au Cambodge ont reçu le baptême ainsi que les autres sacrements de l'initiation chrétienne, à savoir la confirmation et l'Eucharistie. Une bénédiction pour l'église locale et un signe d'espérance pour la communauté catholique d'environ 20 000 fidèles dans une nation de 17 millions d'habitants. S'adressant au nouveau baptisé, Mgr Olivier Schmidt-Hausler, vicaire apostolique de Phnom Penh, a mis l'accent sur trois éléments essentiels pour être un chrétien au quotidien, à savoir prier, aimer et servir. Dans son message de Pâques adressé aux fidèles de Séoul, Mgr Peter Chung Son-taek, archevêque de Séoul et administrateur apostolique de Pyongyang, a expliqué que la résurrection de Jésus-Christ est un témoignage profond du fait que notre existence mortelle transcende les limites temporelles de ce monde et est liée à la vie éternelle. Sa signification transcende donc l'étendue de notre vie physique et attendue, mais relie notre vie à la vie éternelle. Faisant par ailleurs référence à la situation interne de la Corée du Sud, qui s'apprête à tenir des élections législatives le 10 avril, Mgr Peter Chung a invité les hommes politiques du pays à donner priorité au bien-être de la population plutôt qu'à des agendas partisans. C'est pourquoi, a conclu l'archevêque dans son message, il serait impératif que les citoyens fassent preuve d'un discernement judicieux lors du prochain processus électoral en élisant des dirigeants qui s'engageraient sans équivoque à servir les intérêts du peuple. Ils ont été 12 000 à recevoir le baptême lors des vigiles pascales ce week-end en France. La conférence des évêques communiquait avant Pâques des résultats records du nombre de catéchumènes en 2024. En constante hausse, ce nombre n'avait jamais été aussi élevé depuis 20 ans. Le profil des nouveaux baptisés est jeune, entre 20 et 35 ans, souvent de milieu rural, issu des classes populaires et sans culture chrétienne. Un phénomène nouveau et inattendu qui surprend dans les diocèses et signe un nouvel élan pour le catholicisme français, minoritaire mais vivifié et moins enfermé dans les habitudes. Nous en parlons avec Mgr Olivier Le Borgne, évêque d'Arras et président du Conseil pour la catéchèse et le catéchuménat au sein de l'épiscopat français.
Quand vous lisez les lettres de catéchumènes, la très grande majorité de leur vie est abîmée, cabossée, maltraitée. Et dans cet itinéraire, ils ont fait l'expérience que quelqu'un les mettait debout. Certains, l'expérience évidente du Christ. D'autres, au début, ils n'arrivaient pas du tout à nommer, mais il y avait une expérience qui a réouvert une espérance, et c'est vraiment une expérience de salut. Pour un certain nombre aussi, la piété populaire a une très grande importance. Et ce qui nous frappe, c'est que la très grande majorité des catéchumènes viennent de milieux populaires, de milieux très simples. Sans avoir fait l'expérience de salut, il y a parfois, dans des milieux pas du tout élevés chrétiennement, mais il y a quand même une grand-mère, un grand-père, et puis même des non-baptisés s'arrêtent régulièrement dans des sanctuaires pour déposer une bougie. Ce qu'on appelle la piété populaire, dont le pape parle aussi régulièrement, elle est une espèce d'ancrage, d'ouverture sur le sacré. Alors quand ils viennent nous voir, cette catégorie-là ne nomme pas Jésus. Ils ne savent pas qui est Jésus. Mais ils sentent que là, on peut s'adresser à quelqu'un qui les aidera à cheminer. Et ils arrivent sans pouvoir nommer le Christ, puis petit à petit, ils le découvrent et ils l'accueillent comme leur sauveur. Comme si aussi, vous voyez, quelqu'un faisait la réflexion. L'Église en France, à un moment, elle a été très classe moyenne. La bourgeoisie, petite, moyenne, grande bourgeoisie. Et comme si là, eh bien aussi, les milieux populaires réinvestissaient l'Église. Et se disaient, mais le Christ est notre sauveur et c'est notre communauté. Et ça, c'est un vrai changement pour tous les chrétiens, mais c'est une merveilleuse bonne nouvelle.
Le nonce apostolique en Ukraine, Mgr Visvaldas Kulbogas, a célébré Pâques dans la ville de Zaporijia, une ville du sud du pays régulièrement visée par les frappes russes. Le nonce exprime sa peine au regard des conditions difficiles dans lesquelles vivent la population et les prisonniers ukrainiens, une grande épreuve de foi.
Mon plus grand désir serait de pouvoir rendre personnellement visite aux prisonniers, à ceux que je ne peux pas visiter. Ici en Ukraine, je peux leur rendre visite. J'ai même pu rendre visite à des prisonniers russes détenus ici. En revanche, je sais que mon collègue en Russie ne peut pas rendre visite aux prisonniers ukrainiens et qu'aucun représentant de l'Église ne peut leur rendre visite, pas même les prêtres gréco-catholiques. C'est pour moi un très lourd fardeau, savoir que des personnes se trouvent dans des conditions si difficiles et que même le commandement de Jésus « va rendre visite à ton frère qui est en prison » ne peut tout simplement pas être respecté. Et dans quelles conditions reste-t-il? Tant d'anciens prisonniers qui ont été libérés m'ont dit que c'était la plus grande épreuve. Perdre la confiance, perdre l'espérance, perdre la foi. Je sais donc que pour eux, la foi est presque la seule chose qui reste. Mais on aimerait aussi toucher cette foi, les encourager, car sinon leur souffrance reste immense et il n'y a pas cette possibilité de leur rendre visite.
Et invece non c'è questa possibilità di visitarli.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.
Mungu wangu Yesu, nitakufuata saa yote, fasi yote, milele na milele.